Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce sont les révélations les plus importantes en provenance de Chine depuis le début de la pandémie. Un lanceur d'alerte a transmis une centaine de documents à la chaîne d'information américaine CNN, prouvant que tout le système chinois n'avait pas pris la mesure du Covid-19 au début de l'épidémie l'an dernier. Des défaillances en série et c'est le monde entier qui n'a été prévenu que trop tard.
Et l'Europe n'arrive pas à coordonner sa réponse face à la pandémie. Emmanuel Macron veut empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, à Noël notamment en Suisse.
Une cacophonie et reportage dans un instant. À la une encore, le président du Sénat met en garde le gouvernement et la majorité présidentielle à l'Assemblée contre toute velléité de réécrire l'article 24 de la loi sur la sécurité globale qui encadre la diffusion d'images de policiers. Et puis, un chat, emblème de la satire révolutionnaire en Tunisie, Willis from Tunis, à découvrir en France dès aujourd'hui en librairie.
Et puis, la question du jour dans une dizaine de minutes, Catherine, crise du Covid qui écoute le pape François. Je poserai la question à Isabelle de Golemin, les rédactrices en chef au quotidien La Croix.
Il y a un an, le premier cas d'un patient présentant des symptômes de Covid apparaissait dans la province du Hubei en Chine. La chaîne d'information américaine CNN profite de cette date d'anniversaire pour publier une enquête exclusive aujourd'hui. Une centaine de documents à charge contre Pékin obtenus grâce à un lanceur d'alerte anonyme qui dit avoir travaillé au sein du système de santé chinois. Documents authentifiés, Valérie Crovail révèle des défaillances qui ont conduit Pékin à ne pas alerter à temps le reste du monde sur la transmission rapide du coronavirus.
Ces documents constituent la fuite la plus importante en provenance de Chine depuis que la pandémie a démarré. Ils révèlent la lenteur avec laquelle les patients atteints du coronavirus ont été diagnostiqués début 2020. On y apprend que les autorités sanitaires de la province du Hubei, où le virus a été détecté pour la première fois, s'appuyaient sur des systèmes de dépistage déficients. Le délai moyen entre l'apparition des symptômes et la confirmation du diagnostic était de 23 jours, un délai très long, trop long, qui aurait entravé les mesures prises pour combattre la maladie et l'endiguer. Autre révélation qui vient confirmer ce que certains subodoraient. Le 10 février dernier, les autorités sanitaires rapportent 2400 nouveaux cas dans le Hubei. Des documents gardés secrets font état le même jour de 5900 contaminations, soit plus du double. Des chiffres sous-évalués qui ont contribué à minimiser la gravité de l'épidémie à ses débuts.
La Russie, elle, est accusée aujourd'hui de minimiser le bilan de l'épidémie. 40 000 morts officiellement, mais bien plus potentiellement. Et si la situation semble se stabiliser à Moscou, beaucoup de régions russes sont frappées par la deuxième vague de Covid. C'est le cas de Tambov et de ses 300 000 habitants à 500 km au sud de Moscou. Et c'est là que nous emmènera le reportage de la rédaction à 7h25. L'Angleterre sort, elle, aujourd'hui d'un mois de reconfinement. Il est remplacé, au moins jusqu'en février prochain, par un système d'alerte et de restrictions à trois niveaux, mesure adoptée hier par les députés britanniques.
The eyes to the right.
À 291 voix pour et 78 contre, Boris Johnson a rencontré une fronde inédite, mais...
Unlock.
Le vote final signe finalement la réouverture des magasins non essentiels dans toute l'Angleterre, au grand soulagement des commerçants à l'approche de Noël, dont certains vont fonctionner 24 heures sur 24. Mais Boris Johnson est critiqué dans son camp conservateur par des députés inquiets de voir en zone d'alerte de niveau 2 sur 3 les pubs être contraints de servir de l'alcool aux côtés seulement d'un repas substantiel. Pas de pinte donc avec de simples chips. Qu'en est-il avec les Scotch Eggs, ces œufs durs enveloppés de chair à saucisse et de chapelure? Constitue-t-il un repas substantiel permettant de boire de l'alcool? La question divise le gouvernement et agite l'Angleterre. Question pas si anodine que cela pour Boris Johnson qui veut éviter les risques de transmission du virus dans des soirées alcoolisées dans un pays qui compte plus de 59 000 morts du Covid avec 90 morts pour 100 000 habitants. Le Royaume-Uni est le troisième pays le plus touché par la pandémie en Europe après la Belgique et l'Espagne. La France, elle, compte 78 morts pour 100 000 habitants et la décrue se poursuit même si plus de 3500 patients se trouvent aujourd'hui en réanimation. On est loin des 7000 patients aux alentours du 8 avril, pic de la première vague. L'Institut Pasteur a modélisé le nombre de malades à prévoir en réanimation dans 15 jours en fonction de l'allègement du confinement depuis samedi et de la gestion des malades à l'hôpital. Il faut s'attendre à ce que 1600 à 2600 lits de soins critiques soient encore occupés à la mi-décembre. Et pour empêcher de nouveaux foyers de contamination dans des logements logements exigus, par exemple, à la montagne. Emmanuel Macron veut empêcher les Français d'aller skier à l'étranger à Noël, notamment en Suisse, alors que les remontées mécaniques seront fermées dans l'Hexagone à cause de la pandémie.
S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes, nous aurons des mesures, en effet, de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient.
Emmanuel Macron qui a prévu une clause de revoyure avec le Premier ministre vers le 11 décembre. En attendant, les hôteliers en Suisse se frottent les mains, le reportage de Jérémy Lanche.
Depuis vendredi, on a vu quand même une augmentation des questions de la part des Européens, principalement des Français.
Émilie Frey est la directrice de l'Office de tourisme des Diablerets dans le canton de Vaud. La station a déjà ouvert quelques pistes et la tendance pour les fêtes est plutôt bonne. Les Français compteraient pour 20% des réservations.
On avait déjà pas mal de réservations de la part des Suisses qui savaient de toute façon qu'ils allaient devoir rester en Suisse pour skier cet hiver. Donc du coup, la station était déjà pas mal remplie. Et puis là, je dirais que les Français sont venus compléter ces réservations.
Confirmation dans la station voisine de Villars-sur-Ollon. Caroline Meunier gère l'hôtel Alpes Fleuries. Depuis quelques jours, elle reçoit un peu plus d'appels de clients français. Après l'annonce d'Emmanuel Macron, elle se demande maintenant si ses clients vont confirmer ou annuler leur séjour.
C'est inédit. Je ne sais pas trop si mes clients vont pouvoir revenir. Cela dépend, je pense, de la sévérité de ces mesures qui me paraissent vraiment démesuré.
Reste à savoir maintenant comment les autorités françaises comptent s'y prendre pour empêcher les touristes de venir skier en Suisse. Est-ce qu'il y aura des contrôles aux frontières et sur quelle base? Dans d'autres stations comme Verbier, on garde la tête froide. Restrictions ou pas, on estime qu'une éventuelle augmentation du nombre de touristes français ne compensera pas l'absence des autres touristes étrangers. C'est particulièrement vrai pour les grosses stations comme Zermatt et Interlaken où la fréquentation a chuté de 40 à 60% cet été.
Jérémy Lanche en Suisse pour France Culture. En cette période de crise sanitaire et économique, pas de coup de pouce pour le SMIC. C'est ce qu'un comité d'experts présidé par l'économiste Gilles Berset a recommandé hier au gouvernement. Catherine Pétillon.
Il préconise à l'exécutif de s'en tenir à la revalorisation automatique. Dans ce cas, le salaire minimum n'augmenterait que d'environ 1%. Rappelons que pour une personne aux 35 heures, le SMIC s'élève à 1539 euros bruts, c'est 1200 euros nets. Les économistes justifient leurs recommandations par des raisons structurelles auxquelles s'ajoutent les effets de la crise due au Covid-19. Ils estiment que dans la période, la protection de l'emploi doit primer sur l'amélioration du pouvoir d'achat. Comme les années précédentes, les experts estiment que le salaire minimum n'est pas le bon outil pour réduire la pauvreté. Ils recommandent aussi d'abandonner les mécanismes de revalorisation automatique. Le même rapport montre que les personnes au SMIC ont été plus exposées au chômage car elles sont plus souvent en intérim ou en CDD. Il souligne également leur surreprésentation parmi les professionnels sur le front du Covid, notamment dans le domaine de l'aide aux personnes, de la propreté, de l'agriculture ou du commerce. Faute de coup de pouce au SMIC, la revalorisation des métiers pénibles et mal payés ne sera pas pour tout de suite. Le gouvernement a lancé une commission sur ce qu'il appelle les métiers de la deuxième ligne, mais elle devrait durer plusieurs mois. Sur le SMIC, l'exécutif rendra sa décision après un avis purement consultatif d'une commission où siègent organisations d'employeurs et de salariés. Elle doit se réunir le 15 décembre.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Jean Castex et son gouvernement sont attendus de pied ferme cet après-midi pour les questions au gouvernement au Sénat.
Le président de la Chambre haute, Gérard Larcher, a mis en garde hier après-midi l'exécutif et la majorité contre toute velléité de réécrire l'article 24 de la loi sur la sécurité globale qui veut punir la diffusion malveillante d'images de policiers. Le texte est désormais entre les mains du Sénat, explique Gérard Larcher, le son de bicamérisme décrypté par Stéphane Robert.
Gérard Larcher a pris la parole en ouverture de séance hier après-midi, rappelant à l'ordre Emmanuel Macron et son gouvernement.
Le pouvoir législatif appartient au Parlement et à lui seul.
Il faisait évidemment allusion au texte de loi sur la sécurité globale et au fameux article 24 qui divise au sein même de la majorité et dont le chef de l'État a demandé la réécriture pour lever les ambiguïtés.
Je dois donc rappeler au groupe de la majorité de l'Assemblée nationale que la proposition de loi dont il souhaite travailler à la réécriture partielle a été transmise au Sénat depuis le mardi 24 novembre dernier. Il revient donc au Sénat et à lui seul de l'examiner et de réécrire, si cela s'avère nécessaire, une ou plusieurs de ses dispositions. Tout cela, ça s'appelle le bicamérisme.
Très applaudi, Gérard Larcher, il s'est érigé en gardien du temple et en garant du bon fonctionnement des institutions. Ce faisant, il a voulu mettre en exergue à la fois l'amateurisme dont a fait preuve le pouvoir exécutif dans cette affaire et le peu de considération qu'Emmanuel Macron et son Premier ministre montrent envers les parlementaires.
Au procès de Nicolas Sarkozy, de son avocat Thierry Herzog et du magistrat Gilbert Azibert, le tribunal a commencé hier à aborder le fond du dossier, l'examen des faits de corruption et de trafic d'influence reprochés aux trois hommes dans ce qu'on a appelé l'affaire Bismuth, du nom de la ligne secrète utilisée par l'ancien président et son avocat. Un chat, emblème de la satire révolutionnaire en Tunisie, est à découvrir dès aujourd'hui en librairie des deux côtés de la Méditerranée. Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant, de Nadia Kiari, dessinatrice de presse tunisienne. Cette icône de la liberté d'expression publie tous les jours depuis 10 ans un dessin satirique pour croquer la place des femmes, la censure, le terrorisme et l'islamisme. Notre correspondante Maureen Mercier l'a rencontrée à Tunis.
Tout démarre le 13 janvier 2011 à la télévision. Le président Ben Ali tente en vain de calmer la colère de la rue. Nadia Kiari empoigne son stylo.
J'ai fait mon premier dessin qui représente un chat. C'était un moyen aussi pour moi de me planquer derrière un chat, de rester anonyme. J'ai créé un profil sur Facebook.
Très vite, son chat, Willis from Tunis, devient l'emblème de la satire révolutionnaire.
Ça faisait un bien fou de pouvoir m'exprimer, de pouvoir témoigner. J'avais quoi 36, 37 ans. Bon, j'ai fermé ma gueule, donc j'en avais gros sur la patate.
Ces 10 ans de révolution, elle les chronique. Premières élections démocratiques, première déception, ceux qui les remportent, les islamistes.
Bah, le flic, il a changé de look, quoi, mais c'est les mêmes méthodes. On a tous eu droit à des menaces et carrément des fatwas.
Pas question de céder, elle s'en prend aux islamistes comme aux nostalgiques de l'ancien régime, dessinés pour ne pas perdre cette liberté, surtout ne jamais se censurer, ne jamais céder à la peur.
Il suffit de voir toutes les attaques contre les journalistes et qui viennent de fonctionnaires, qui viennent aussi de la police, c'est quand même gravissime. Si on n'exerce pas tous les jours ce droit, on le perd.
10 ans après, l'économie du pays est à terre, ou presque, la classe politique pas à la hauteur.
C'est catastrophique la situation là actuellement. Mais faut pas baisser les bras, il faut pas se résigner, parce que c'est pas comme ça qu'on va arranger les choses.
Ne pas se résigner, pour elle, c'est continuer de dessiner et espérer que Willis from Tunis puisse bientôt se reposer.
Un grand bond pour le programme spatial chinois. Une sonde s'est posée avec succès sur la Lune, une mission cruciale en vue d'y envoyer des taïkonautes d'ici 2030. Le temps de ce mercredi 2 décembre, nuageux, parfois pluvieux et assez froid, avec des températures comprises au meilleur de la journée entre 1 et 15 degrés du nord au sud, Guillaume.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, on va se demander qui écoute le pape François par ces temps de Covid.